spirituel aujourd'hui, nous allons célébrer ensemble, si vous voulez bien, le premier anniversaire de l'entrée au ciel d'un prêtre que vous connaissez, Michel Coist. Ce prêtre français qui venait souvent ici au Québec et qui est venu nous donner une conférence il y a quelques années à peine, en plein cœur de Montréal, et qui a parcouru le Québec d'ailleurs, Michel Coist. Un écrivain spirituel tellement extraordinaire qu'il a vendu pour plus de 8 millions d'exemplaires de ses livres, en particulier son livre Prière, mais aussi les autres, et le dernier qui est paru il y a à peine un an, au moment de sa mort, à peine en même temps qu'il est mort, le 17 décembre 1997. Il a publié « Construire l'homme ». C'est une reprise de son livre fameux, très lu, qui s'appelait « Réussir ». Et c'est publié aux éditions de l'Atelier, c'est-à-dire les éditions ouvrières, où il publie habituellement. Michel Coist a parcouru le monde et j'ai eu la chance, il y a 25 ans, en 1973, ça fait bien 25 ans, d'aller au Havre, où il était curé et faisait du ministère, où il écrivait et d'où il partait pour aller à travers le monde. Et nous avions été là, Marcel Brisebois et moi, mon intervieweur, à rencontre à la télévision pour le rencontrer justement et faire une émission avec lui. Et en sa présence, j'ai été saisi par cette espèce de discrétion qu'il avait. C'était pas un homme hâbleur, loin de là, c'était tout au contraire lui qui était un écrivain très connu, un homme discret, solide et en même temps effacé. Je dirais même presque ennuyé d'être obligé de faire de telles entrevues, comme s'il était une vedette, car il ne se prenait pas pour une vedette du tout. Du tout, du tout, du tout. C'était un homme, un vrai prêtre. Un prêtre à la façon de ceux que réclame le cardinal Bernardin Gantin. Cardinal extrêmement important au Vatican, n'est-ce pas? Il s'est adressé au président des conférences épiscopales, c'est-à-dire de l'ensemble des évêques là, d'Afrique et de Madagascar, au mois d'avril l'an dernier, quelque temps avant la mort de Michel Coist. Et je lis ça parce que c'est très beau, hein. Il nous faut des prêtres de qualité, c'en était un, comme il y en a bien d'autres. Et le cardinal Gantin dit ceci, « Le prêtre se prépare. La formation des futurs prêtres est l'un des devoirs fondamentaux et prioritaires de l'évêque. Et ce sont ses premiers conseillers, et ils doivent être bien formés. » Vatican II est clair. Le renouveau de l'Église entière, souhaité par tous, dépend pour une grande part du ministère des prêtres animé par l'Esprit du Christ. C'est ce que dit le Concile Vatican II, c'est-à-dire c'est ce que disent l'ensemble des évêques du monde entier dans les années 60. Et ils insistent aussi sur la qualité de la formation reçue au séminaire. Le cardinal Gantin termine en disant « L'Esprit qui permet aux prêtres d'être le frère de tous commence au séminaire ». Une véritable pépinière des apôtres, dont l'Église d'Afrique a besoin. Il s'adresse, n'est-ce pas, comme je vous ai dit au début, aux évêques d'Afrique et de Madagascar. Et il ajoute « Veillez à ce que le sacerdoce ne devienne une forme de promotion sociale ou bien un refuge d'accès facile pour les caractères timorés incapables d'affronter la dure vie de la société moderne. » Non, le prêtre n'est pas un dignitaire, mais un serviteur inutile, cherchant à se conformer au Christ pauvre, obéissant et crucifié. Je peux témoigner que je connais plusieurs prêtres comme ça. Il y en a qui m'écoutent et je les salue. Cardinal Gantin ajoute, soyez exigeants. Vos prêtres, la communauté chrétienne et surtout vos successeurs vous en seront infiniment reconnaissants. Préférez la qualité à la quantité. En temps de crise, il faut des guides d'un caractère bien trempé et des personnalités solides. Pouvez-vous demander où j'ai pris ce texte? Il nous est envoyé dans un tout petit bulletin. C'est le bulletin de l'œuvre pontificale de Saint-Pierre-Apôtre. Avez-vous déjà envoyé de l'argent à l'œuvre pontificale de Saint-Pierre-Apôtre? C'est pour aider les prêtres à être formés à travers le monde. eux qui sont souvent si pauvres. Or, Michel Quast, décédé il y a un an exactement aujourd'hui, a été pendant plusieurs années, des dizaines d'années, l'auteur de livres qui ont intéressé des générations de chrétiens de tous les âges et particulièrement des jeunes. Il a illuminé, je peux dire, des millions de jeunes. Dans le monde entier, on en a fait des compagnons de route, ces livres-là. Et le pape en avait comme livre de chevet. Jean-Paul II, il en a encore, probablement. Et grâce à eux, grâce à ces livres, j'ai bien dit, des millions de jeunes, je le répète, ont trouvé des mots pour vivre leur foi. Les mots de Quast, les mots de Michel Quast, l'abbé Quast. Cet écrivain catholique, donc, est mort d'un cancer du pancréas dans sa ville natale, du Havre, à l'âge de 76 ans, le 18 décembre 1997. Mais qui donc était Michel Quast? Je dirais que c'est un phénomène éditorial, comme il en existe assez peu dans le monde catholique. Au fil des ans, comme je vous ai dit au début, près de 8 millions d'exemplaires, et même un peu plus selon d'autres auteurs, 8 millions d'exemplaires des œuvres de ce prêtre hors du commun sont sortis des presses des éditions Vrière, devenues ensuite les éditions de l'Atelier. Son livre « Réussir », qui est vraiment très intéressant, publié il y a déjà longtemps, près de 40 ans, publié en 1961, a été traduit en 24 langues. La réputation de Michel Quast était mondiale. J'en avais extrait un passage pour l'encadrer et le remettre à mon fils quand il avait beaucoup de problèmes. J'en lis un extrait. « Donne ton souci à Dieu. » Si l'homme est souvent malheureux intérieurement, écrit Michel Quast, si l'homme est souvent malheureux intérieurement, s'il échoue dans la vie, c'est qu'il veut la vivre à sa manière, suivant le mode humain et en comptant sur ses propres forces. Aussitôt qu'il démissionne entre les mains de Dieu, mais Dieu, pour lui, se met à l'ouvrage. La réussite, pas forcément la réussite humaine, est inévitable et totale. Le Seigneur est là, présent à toute ta vie, mais discret, attendant que tu lui donnes toi-même un ennui, que tu lui confies une tâche. Pourquoi garder tant de travail pour toi? Pourquoi lutter en lui demandant de t'aider? Pourquoi ne pas lui donner tout à porter, tout à faire, et ton cœur et tes mains, pour qu'il s'en serve lui-même et chaque soir accepte de mourir à toutes tes préoccupations, tous tes soucis, légitimes ou non, et humblement, remets tout entre les mains du Père pour te réveiller chaque matin vide de toute inquiétude, neuf, pur, face à la vie qui t'attend. Si tu veux être libre, si tu veux être jeune, joyeux, en paix, fort et triomphant, bien chaque jour, chaque minute, jette ton souci dans le Seigneur et lui-même te soutiendra. L'abbé Michel Quast est né le 18 juin 1921 au Havre, puis il est devenu orphelin à 14 ans. Il est au travail à l'âge de 14 ans. Il raconte admirablement bien dans un livre, Michel Quast à cœur ouvert, sa jeunesse. Il dit, mon père et ma mère étaient nés au Havre. J'ai une sœur célibataire qui est associé à mon travail en tant que secrétaire, quasiment depuis le début de mon ministère de prêtre. Je lui dois beaucoup, beaucoup. Plus que les manuscrits des livres qu'elle me tape. Mon père était expert comptable et ma mère sans profession. Je suis de classe moyenne, de cette classe dont certains théoriciens nient l'existence parce qu'ils n'en sont pas, et que ceux qui en font partie connaissent d'expérience, comme les métis savent, par l'intérieur, ce que c'est que d'être de s'en mêler. Pendant un temps, j'ai cru que c'était une tare. Assez vite, j'ai découvert qu'indépendamment des options de l'esprit, être à la charnière de deux mondes pouvait me permettre, si j'acceptais d'être moi-même, ouvert et disponible, de comprendre les deux mondes. C'est difficile, mais non pas impossible. Peut-être est-ce à cause de cette origine que j'ai pu œuvrer parallèlement dans le monde ouvrier et dans le monde bourgeois, et non pas uniquement dans le monde ouvrier, comme beaucoup le pensent. Peut-être est-ce aussi en partie à cause de cela que mes livres ont été en même temps les livres de chevet de tel roi d'un pays ami, tel débardeur et tel indien des hauts plateaux des Andes. J'ai été élevé chrétiennement par ma mère, très pratiquante. Mon père, lui, n'était pas croyant. Et je fus là encore partagé, irritant peut-être de ses questions et de ses refus, même s'ils n'étaient pas formulés. Et j'ai coutume de dire que la formation reçue avait apparemment coulé sur moi comme de l'eau sur une toile cirée. C'est dans la rue, écoutez bien, que j'ai rencontré Jésus-Christ vivant, par l'intermédiaire d'un militant jossiste. La jeunesse ouvrière catholique, un jossiste. Ayant brutalement perdu mon père lorsque j'avais 12 ans et demi, je travaillais dès l'âge de 14 ans. Coursier dans une maison d'assurance, puis chez un transitaire en coton, c'est sur le chemin de mon bureau que je fis la connaissance de ce militant. Ami, il m'ouvrit les yeux sur les autres et il m'engagea dans de petites actions pour la jeunesse ouvrière catholique, la JOC. La première fois, c'était pour une vente de calendriers. Et peu à peu, me mettant sur la route de mes frères, il me mit sur le chemin de Jésus-Christ. Très tôt, seul, je cherchais en effet un sens à ma vie, à la vie tout court. Je ne pouvais croire que cette immense humanité dans laquelle j'étais introduit sans l'avoir désiré. Cet univers impressionnant, merveilleux et terrible au milieu duquel les hommes luttaient, saignaient, mouraient, était insensé. Je refusais personnellement d'être un fleuve sans source, un chemin qui ne mène nulle part. Et je pensais souvent que si je ne trouvais pas de raison de vivre valable à mes yeux, je trouverais bien le moyen de m'arrêter de vivre. À cause de mes propres questions, j'ai toujours respecté et pris au sérieux celles des jeunes. Oh, je n'admets pas qu'on les écarte d'un sourire indulgent et d'un haussement d'épaules. Certains cache une réelle et légitime angoisse. Avant d'apprendre aux jeunes à vivre, il faut leur apprendre pourquoi vivre. Toujours seul, je parvins à l'idée d'un Dieu. Je sus plus tard que c'était le Dieu des philosophes et des savants. Mais j'aspirais à plus. Je voulais un Dieu qui s'intéresserait à moi. Un Dieu que je pourrais rencontrer. Avec qui je pourrais parler. Bref. Un Dieu qui me respecterait et, en fait, m'aimerait. Parallèlement, je regardais les hommes, je les scrutais. Leur mystère m'éblouissait, me passionnait. Et à travers eux, je cherchais un chemin. Il y avait bien, pensais-je, un fil conducteur, un quelque chose qui en chacun se retrouvait et qui peut-être me conduirait à la source. Je crus d'abord que c'était la vie. Elle coulait en tous, la même. Venant de très loin, transmise et retransmise, développée, défendue, âprement, jusqu'au sang. Mais je constatais qu'on pouvait sacrifier sa vie pour un amour. L'amour, oui, c'était l'amour qui était l'énergie la plus profonde au cœur de l'homme, de tous les hommes sans exception. J'entrepris de le vérifier dans les autres et en moi. Je m'imaginais rejeté par tous. Privé de baisers, de poignées de main, de paroles, de regards, seul, affreusement seul, j'en mourrais. Je m'imaginais incapable d'aimer, traînant ma solitude comme une prison où nulle porte ne laissait espérer nulle évasion libératrice. Je traînais dans les rues tard le soir, lorsque très rapidement, séchant les cours, c'est-à-dire n'allant pas assez court, hein, après le travail, il me fallait attendre l'heure de sortie des élèves pour entrer à la maison sans éveiller les soupçons. Je déambulais presque toujours seul, observant les immeubles, les fenêtres éclairées, les persiennes fermées, devinant derrière les murs les familles et les couples, les jeunes et les vieux, qui tous, dans la réussite ou dans l'échec, tentaient d'aimer à leur façon. J'écoutais les chansons à la mode. Elles ne parlaient que d'amour. Je regardais les revues pornographiques que, gamin, j'étais chargé d'acheter pour les collègues de travail, et j'y découvrais la fin des corps, qui, eux aussi, malgré le poids de la matière, semblaient crier leur désir d'accéder à l'amour. Et je concluais, que l'homme, cet étrange animal raisonnable, ne vivait que pour l'amour et par l'amour. C'était sa raison de vivre. J'étais prêt alors pour la révélation, et c'est ainsi qu'il a rencontré Jésus-Christ. Vous vous demandez peut-être, surtout les gens qui sont distants de Jésus-Christ aujourd'hui, hein, comment ce jeune homme, orphelin, ouvrier, réussit à trouver Jésus-Christ, nous qui le cherchons souvent toute notre vie. Il écrit, c'est un soir, au retour d'une réunion jossiste où mon ami, maintenant m'entraînait, que je lui posais la question, « Pour toi, qui est Jésus-Christ ?» Et avec ces mots à lui, il me dit sa foi en Jésus-Christ vivant. Vivant. Ensemble, puis avec d'autres, nous sommes partis à la découverte de l'Écriture, de la Bible, dans la vie. Et ce fut pour moi un éblouissement. Certaines paroles du Nouveau Testament sont encore, pour mes soifs d'aujourd'hui, des sources. Je me souviens comme je m'y précipitais pour y boire longuement. Ce n'est sûrement pas un hasard si je peux encore, des dizaines d'années plus tard, dire à quel endroit, assis sur les galets de la plage, après le bain, ou le long de telle rivière lors d'une balade en vélo, dans telle rue le soir à la lueur de tel lampadaire, quel passage du Nouveau Testament. Mon ami et moi, nous avons lu, relu, savouré. Lecture naïve, diront certains. Peu importe. Je sais, moi, que cette lecture a bouleversé ma vie. Et aujourd'hui encore, je crois que ces mots étaient une parole vivante. Et le seul regret qui souvent m'assaille, c'est de ne pas y avoir été assez fidèle. Alors j'ai grandi nourri d'évangiles. Et ainsi, Dieu était devenu pour moi quelqu'un. Il était amour et Jésus-Christ était l'amour incarné. L'homme était fruit de l'amour et tout entier fait par cet amour. Ensemble, en équipe, et très concrètement pour moi, en équipe de militants JOC, nous construisions le grand corps du Christ, le corps mystique. Ma vie, dans ses moindres détails, et toute la vie du monde avait un sens. Elle valait la peine d'être vécue, mais il fallait dire partout à tous que la vie, c'était Jésus-Christ. Avec mes camarades de toutes mes forces, je chantais, nous referons chrétiens nos frères. C'était un chant que chantaient ces jeunes gens. Ça se chantait à Montréal dans les années 30 et 40 et 50. Alors, donc, il milite à la JOC, puis il devient responsable de groupe, puis même dirigeant fédéral. Il y avait deux fédérations de jossistes à l'époque, là, en France. Et à 18 ans, il entre au séminaire pour devenir prêtre, et il est ordonné prêtre en juillet 1947 à 26 ans, après des études théologiques au grand séminaire de Rouen, et en Normandie. Il prépare à Paris une licence de sciences sociales et politiques. Il s'instruit vraiment, tout en demeurant en contact avec différentes expériences missionnaires. Il veut toujours du concret dans sa vie sacerdotale. De retour à Rouen, il vit pendant plusieurs mois dans un quartier ouvrier pour y faire une étude de sociologie qui lui servira de thèse de doctorat. Et l'étude de sociologie qu'il fait de ce monde, souvent pauvre, et qui était réalisé avec le concours du Centre national de la recherche scientifique, le CNRS, et du ministère français de la reconstruction et de l'urbanisme, il travaillait sérieusement, est édité finalement sous le titre de « La ville et l'homme ». Il gagne un prix, le prix Janssen, 1954, à la Sorbonne. C'est donc à la fois un auteur populaire, qui écrit très simplement, et un chercheur, et un praticien. Pardon. Il met au point une méthode urbaine devenue un classique. Alors, il continue ensuite à écrire et il participe aux travaux d'économie et humanisme avec le père Lebray, un dominicain éminent. Puis, il est envoyé à sa demande, parce qu'il veut être dans le travail concret auprès des âmes, des gens, des êtres humains, il est envoyé comme simple vicaire mais dans une grosse paroisse populaire du Havre, cette ville du Havre où il est né. C'est de là que vous connaissez le Havre, les grands navires partent ou partaient pour venir ici en Amérique du Nord. Hein. C'est le grand port. Alors chargé par son diocèse des mouvements de jeunesse, Michel Coist est, en plus de ça, secrétaire général du comité épiscopal français pour l'Amérique latine. Et c'est de là son grand intérêt pour l'Amérique latine. Et à ce titre, il participe aux travaux du Conseil général de la Commission pontificale pour l'Amérique latine, avec le Vatican, quoi. Puis il demande enfin à retourner encore à la base pour faire ce que font ses confrères prêtres. Alors il est nommé curé d'une importante paroisse du Havre. C'est là que je suis allé le rencontrer il y a 25 ans. Et tout ça en continuant d'écrire et de parler en France et à l'étranger. Plusieurs parmi ceux qui m'écoutent, vous devez vous souvenir d'avoir entendu parler l'abbé Coist, hein, qui est venu au Québec à plusieurs reprises. C'est Benoît Voyer qui me rappelait que, j'avais oublié, que le 12 juin 1977, 21 ans, il y avait eu une grande célébration de clôture du congrès francophone du renouveau charismatique catholique au Stade olympique de Montréal. On dit qu'il y avait 60 à 70 000 personnes. Et là, le père Réginbal, dont je vous ai parlé, je crois, le 12 septembre, assume l'animation et c'est l'abbé Michel Coist qui donne l'homélie conférence, je m'en souviens maintenant, devant près de 70 000 personnes. Ces deux prêtres, connus universellement, oui, le père Réginbal était connu universellement, ont marqué, à leur façon, l'histoire de l'Église catholique, on peut dire un peu partout autour du globe. C'est Benoît Voyer qui me le faisait remarquer, particulièrement en m'envoyant un article qui est paru dans l'Informateur catholique à l'époque. En 1973, donc, je l'ai rencontré. Et je suis bien de l'avis de Benoît Voyer que, de Michel Coist, se dégageait une profonde joie de vivre, douce, une sérénité. Un homme qui vibrait intensément, dans les joies comme dans les peines. Dans son premier ouvrage, Prière, il a refusé de se laisser prendre au jeu du végétariat. Cet ouvrage est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. Tous les profits financiers de ses livres, d'ailleurs, ont été versés à des œuvres catholiques de la jeunesse de France. Il ne gardait presque rien pour lui, si ce n'est que pour payer ses billets de transport, des choses comme ça. Car quand je suis allé le voir, c'était un prêtre pauvre que j'ai rencontré. Pauvre, pauvre. Il a toujours préféré l'humble apostolat en paroisse à la vie d'auteur à succès. C'est pour ça qu'il semblait légèrement ennuyé quand nous sommes allés l'interviewer. Je ne dis pas qu'il nous a mal reçus, loin de là, mais je sentais qu'il n'était pas du tout vedette. Selon Michel Coist, la prière est un dialogue d'amoureux. Qu'est-ce qu'il dit au sujet de la prière? Il sait parler à Dieu comme à un ami. C'est exprimer son amour par la parole, par des gestes, en chantant, en offrant quelque chose à celui que l'on aime. Il y a bien des formes possibles de prière. Et il ajoute à ceux qui me disent, « Mais moi, je suis pas capable de prier. » Il dit, « Je demande toujours, est-ce que tu es capable de dire bonjour, bonsoir, je t'aime, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. » Alors, les gens répondent, « Bien oui. » Alors, je leur rétorque, c'est cela, prier. Il s'agit de dire ces choses à Dieu, c'est simple. Pas besoin d'apprendre à prier. Il va plus loin, il dit, il n'y a pas de méthode pour prier, ni de position corporelle spéciale à emprunter, quoique ça peut aider. La prière, dit-il, se fait au cœur du quotidien. Et il dit, vous savez, ça me barbe d'aller faire des courses, alors je demande au Seigneur, viens-tu avec moi? Et c'est une prière, ça. En faisant des courses, je lui dis, « Regarde la dame, elle a une drôle de tête. » Alors il part comme ça, à Dieu, presque avec irrespect. Non, pas avec irrespect, avec tendresse. C'est que Michel Coist ne se considère pas comme un spécialiste de la prière. Il dit, « Je suis un chrétien et un prêtre comme les autres qui essaient de prier. » Or, 40 ans après sa sortie, en 1954, le texte de son livre « Prière », qui est toujours réédité et disponible. C'est Gaston Pietri, un prêtre remarquable, que nous avions aussi interviewé à Rencontre, qui disait « Il y a dans les prières de Michel Coisse quelque chose d'irremplaçable, un sens très aigu du congrès et du concret et des personnes. » Michel Coisse pose un regard évangélique sur la vie quotidienne, tout simplement. C'était ça, Michel Coisse, un homme simple, vrai, authentique. Dans son livre « Michel Coisse à cœur ouvert », il dit au numéro 298 quelque chose qui est très important. Je crois que c'est au cœur de son message. Il nous en avait parlé. C'est pas long. Je le lis. Un groupe dans l'Église vient de réaffirmer son refus de toute propagande, tout prosélytisme, à sa volonté de témoigner de Jésus-Christ ressuscité par la vérité de sa vie quotidienne dans une attitude de silence et d'écoute. Hein, les gens qui veulent être dans le silence, l'écoute, le témoignage purement et simplement, sans parler, sans enseigner, sans essayer de dire ce qui est vrai. Il dit, c'est peut-être une belle attitude, sûrement la plus valable en profondeur, mais à la condition que nous soyons parfaits, c'est-à-dire que notre vie entière soit évangile, bonne nouvelle, présentée aux hommes de notre temps et lisible par tous. Un peu comme la vie des petits frères de Jésus, les petites sœurs de Jésus, ces gens-là. Il dit, pour moi, j'ai conscience que ma vie ne dit pas, ne crie pas Jésus-Christ. C'est l'humilité, hein? Et là, là. Pour moi, j'ai conscience que ma vie ne dit pas, ne crie pas Jésus-Christ, dit Michel Coisse. Alors je renonce à clore mes lèvres, à fermer ma bouche, quoi. Je dis et je dirai ce que je crois. Mais je dirai aussi que ce que je crois de toutes mes forces, je ne le vis pas. Et beaucoup d'autres croyants, hélas, avec moi, je dirai que j'essaie, que nous essayons de les vivre ensemble, peuple de pécheurs. Entre le vacarme et le silence, il y a un espace libre pour la parole humble mais vraie. Il faut oser parler. Or, il a osé. Michel Croix, c'est un prêtre qui est en contact toute sa vie, contact permanent avec les jeunes de tous les milieux. Il tente de prolonger son action par la prédication, puis la plume, puis il cherche à faire connaître Jésus-Christ à ses contemporains. Il essaie de leur révéler que sans échapper à leurs responsabilités, bien, ils peuvent rencontrer Dieu, leur Dieu, et vivre avec lui une amitié bouleversante. Voici un extrait d'une prière qui s'intitule « Merci » qui a fait le tour du monde. Apprendre à dire merci à Dieu. Merci Seigneur, merci. Merci pour tous les cadeaux que tu m'as offerts aujourd'hui. Merci pour tout ce que j'ai vu, entendu et reçu. Merci pour l'eau qui m'a réveillé, le savon qui sent bon, le dentifrice qui rafraîchit. Merci pour les habits qui me protègent, pour leur couleur, pour leur coupe. Merci pour le journal fidèle au rendez-vous. Merci pour le sourire du matin, les sérieuses réunions qui se poursuivent, la justice rendue. Et le match gagné. Merci pour l'auto-poubelle et les vidangeurs, quoi. Et les hommes qui l'accompagnent. Pour leurs cris matinaux et les bruits de la rue qui s'éveillent. Merci pour mon travail, mes outils, mes efforts. Merci pour Jacques qui m'a prêté sa lime. Danny qui m'a donné une cigarette. Oh, 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 on voit que le texte a plusieurs années, hein. Je passe. Merci pour Charles qui m'a tenu la porte. Et merci pour la rue accueillante qui m'a porté. Pour les devantures des magasins, pour les voitures, pour les passants, pour toute la vie qui coulait rapide entre les murs ajourés des maisons. Merci pour la nourriture qui m'a soutenu, pour le verre de bière qui tantôt m'a désaltéré. Merci pour la moto qui docilement m'a conduit là où je désirais, pour l'essence qui l'a fait tourner. Pour le vent qui m'a caressé le visage et pour les arbres qui m'ont salué au passage. Ah oui, merci aussi pour le petit garçon que j'ai regardé jouer sur le trottoir d'en face. Merci pour ses patins à roulettes et pour l'air drôle qu'il avait lorsqu'il est tombé. Merci pour les bons jours qu'on m'a souhaités, pour les poignées de main que j'ai données, pour les sourires qu'on m'a offerts. Merci pour maman qui m'accueille à la maison, pour son affection discrète, pour sa silencieuse présence. Et merci pour le toit qui m'abrite, pour la lumière qui m'éclaire, pour la radio qui chante. Ah oui, merci pour le bouquet de fleurs, petit chef-d'œuvre sur ma table. Merci pour la nuit paisible, merci pour les étoiles, merci pour le silence. Merci pour le temps que tu m'as donné. Merci pour la vie. Merci pour la grâce. Merci d'être là, Seigneur. Oui, merci de m'écouter, de me prendre au sérieux, de recevoir en tes mains la gerbe de mes dons pour l'offrir à ton Père. Oh, oui, merci, merci, Seigneur, merci. Prière bien simple, mais tellement vraie. En somme, il écrit des prières à partir de situations extrêmement concrètes, d'un réalisme rigoureux. Un jeune dont les parents divorcés, ça peut être ça. Une femme dont le mari n'est pas chrétien aussi. Il a écrit de belles prières là-dessus. Michel Coisse ne prend pas les réalités sociopolitiques par le biais de l'abstraction. Non, il rentre dedans. C'est une vision de l'homme et un style qui doivent sans doute beaucoup à l'itinéraire personnel de Michel Coisse, que je vous rappelle. Hein. Orphelin à 12-14 ans, je vous le rappelle. Très tôt obligé de travailler. Prêtre, sociologue, curé de paroisse ouvrière, aumônier d'Action catholique, mais aussi grand voyageur, surtout en Amérique latine, au nom de l'Église. La prière était pour lui une façon de rejoindre l'Éternel dans le temps. Dans ses textes, il imaginait par exemple si Jésus-Christ lisait le journal. Et il voulait passer les événements au rayon X de l'Évangile. Il recherchait une relation personnelle à ce Dieu qui nous a donné rendez-vous au cœur de notre vie. Il y a dans son œuvre un antidote à l'enfouissement dans le monde, comme à la recherche d'une intériorité qui serait de l'ordre de l'évasion, oui. C'est une des raisons de l'écho qu'il a si durablement rencontré. Oh, j'ai le goût de vous en lire une autre. C'est sur le regard. C'est beau. Maintenant, je vais clore, Seigneur, mes paupières. Car mes yeux ont ce soir achevé leur service, et mon regard à mon âme va rentrer après s'être promené une journée dans le jardin des hommes. Merci, Seigneur, pour mes yeux, fenêtre ouverte sur le grand large. Merci pour le regard qui transporte mon âme comme le rayon généreux conduit la lumière et la chaleur de ton soleil. Je te prie dans la nuit, afin que demain, lorsque j'ouvrirai mes yeux au matin clair, il soit prêt à servir, et mon âme, et mon Dieu. La prière se continue. Elle est très belle. Dans Réussir, son ouvrage qui s'est beaucoup vendu aussi, 2 millions d'exemplaires, je crois, et dans Prière, Réussir, ça date de 1954, mais c'est toujours publié, 1961 pour Prière. Eh bien, Michel Coisse, l'abbé Michel Coisse, devance le concile en employant pour parler de la foi les mots et les images de son temps et tutoie Dieu. Il délaisse le visage du père fouettard qu'on avait de Dieu, n'est-ce pas, pour présenter celui d'un proche, d'un père, d'un ami. Succès énorme parmi les scouts, qui sont très nombreux dans le monde, beaucoup plus qu'on pense, puis dans les mouvements d'action catholique si répandus à l'époque. Il écrit que le temps est un beau cadeau d'en réussir. Page 82. Le temps est un beau cadeau que Dieu nous fait. Il nous en demandera un compte exact. Mais rassure-toi, Dieu n'est pas un mauvais père. Il ne donne pas un travail sans donner les moyens de le réaliser. On a toujours le temps de faire ce que Dieu nous donne à faire. Quand tu manques de temps pour tout réaliser, arrête-toi quelques instants et prie. Puis établis ton emploi du temps sous le regard de Dieu. Ce que loyalement tu ne peux pas accomplir, bien laisse-le. Même si les hommes insistent et ne comprennent pas, car Dieu, lui, ne te le donne pas à faire. Tu n'as donc jamais trop de travail à effectuer. Quand tu as découvert ce que Dieu désire de te voir faire, alors laisse tout et mets-toi tout entier dans cette tâche. Dieu t'attend là, à ce moment, à cet endroit et nulle part ailleurs. C'est ce qu'on appelait autrefois le devoir des temps. Et un texte que Benoît Voyer aime beaucoup, c'est « Veux-tu être efficace? Apprends à te limiter, à vouloir tout faire, tu ne fais rien sérieusement. Les grands hommes font 10 fois plus de travail que nous en 10 fois moins de temps. Pourquoi? Ils savent s'organiser. Ils protègent, défendent ou sont capables de reconquérir leur calme. Ils se mettent tout entier à la tâche. Alors répète-toi sans cesse. Pour l'instant, je n'ai qu'une personne à recevoir, celle que je reçois. Pour l'instant, je n'ai qu'une lettre à écrire, celle que j'écris. Pour l'instant, je n'ai qu'une chose à faire, celle que je fais. Ainsi, tu agiras beaucoup plus vite, beaucoup mieux, avec beaucoup moins de fatigue. Aimer ou le journal de Danny, paru en 1956, puis ensuite en 62, Donner ou le journal d'Anne-Marie, rejoignent les préoccupations de nombreux adolescents. Ça a fait tout un tabac chez les jeunes à l'époque. C'est Brigitte, 43 ans, qui déclare que une copine m'avait prêté le journal d'Anne-Marie. Ce livre parlait notamment des difficultés avec les parents. Il rejoignait toutes les préoccupations d'une adolescente de 14 ans à l'époque de mai 68, il y a 30 ans. À la JEC, la jeunesse étudiante catholique, il faisait l'objet de grandes discussions. Je l'ai lu et relu plusieurs fois. En somme, ce qui pouvait aider les jeunes à cette époque, on n'est pas sûr qu'aujourd'hui ça puisse suffire. Le père Gaston Pietri, ce fameux prêtre interviewé à Rencontre à la télévision, dit le regard positif de Michel Croix, qui déculpabilisait la sexualité à l'époque où l'Église la présentait sous le jour de la crainte et de l'interdit, était extraordinaire, mais je n'oserais plus passer le journal de Danny à une adolescente d'aujourd'hui, sauf s'il est ultra protégé par son milieu familial et ultra complexé. Comme quoi les choses changent. Michel Croix écrivait dans Réussir un très beau texte. Certains hommes marchent sur la tête, ce n'est pas viable. L'homme n'est pas fait pour cela. Tu marches sur la tête lorsque le physique, ton corps, prend le dessus et commande. C'est la sensualité sous toutes ses formes. C'est peut-être aussi la maladie qui écrase au lieu d'être dominée et offerte, oui d'accord. Mais si ton corps décide, ordonne, et si tu obéis, bien le poids de celui-ci écrasera tout le reste en toi. Ta sensibilité s'émoussera. Ton esprit étouffera et s'anémira. Certaines personnes avancent en rampant. Chez elles, c'est le sensible qui commande. Ta sensibilité est maîtresse chez toi quand une affection devient une passion et, échappant au contrôle de la raison, te fait perdre la tête. Si ta sensibilité domine, elle aussi paralyse l'esprit. Elle l'entraîne à sa remorque. Il ne peut plus juger sainement, agir librement. Alors certains hommes planent, ils n'ont pas les pieds sur la terre. Tu planes lorsque, par peur du réel, manque de générosité, de satisfaction orgueilleuse, tu te laisses emporter par la rêverie. Alors, par ses propres moyens, l'homme ne peut rester debout. Son corps est trop lourd, sa sensibilité trop entreprenante. Il a besoin d'une force avec un F majuscule qui l'attire par en haut, le soutienne et le transfigure par l'intérieur. Et si tu ouvres ton âme à Dieu, tu seras fort de sa force. Ta sensibilité et ton corps seront entre ses mains, puisque tes mains seront dans les siennes. Si tu n'accueilles pas Dieu, tu te mutiles. Tu es un homme inachevé, un homme tronqué, décapité. Or, écoute bien, l'homme complet dans la pensée éternelle du Père, c'est l'homme debout, et divinisé. Je vous rappelle que Michel Croix a publié Prière. Je le répète, ouvrage qui s'est vendu à 2 millions d'exemplaires. Il a publié aussi Parle-moi d'amour. Parle-moi d'amour, qui un livre qui s'est énormément vendu, qui est toujours distribué par Iris Diffusion. Et tous ces livres sont distribués par Iris Diffusion. Et qui sont situés à Montréal, et par Novalis aussi. Il a publié Chemin de prière, Le Christ est vivant, Réussir, Il a publié aussi, et je choisis dans ce livre, magnifiquement présenté, distribué par Iris Diffusion, c'est Itinéraire. Il reprend des prières. Je vous en lirai une tout à l'heure. Mais Iris Diffusion diffuse actuellement, comme je l'ai dit au début de l'émission, Construire l'homme. Ce livre, c'est le testament de Michel Coisse, paru au moment de sa mort. Aux éditions de l'Atelier, c'est-à-dire aux éditions ouvrières qui ont changé de nom. Et pendant 40 ans, on peut dire que des millions de jeunes ont lu Michel Coisse. Il s'écriait souvent « Heureux l'ami qui a rencontré Dieu ». Et cet ouvrage, « Construire l'homme », est en quelque sorte, comme je vous ai dit, le testament spirituel de Michel Coisse. Durant toute l'année 1997, Michel Coisse était atteint d'un cancer du pancréas et qu'il s'est irréversible. Michel Coisse n'aura d'autres préoccupations avant de rejoindre Dieu, son Père, que de terminer ce livre. Construire l'homme, il y pensait, depuis la sortie de son livre Réussir, dont la première édition a été publiée vers 1960, ou même avant ça. Auteur de nombreux ouvrages, comme je viens de vous dire, Michel Coisse n'a cessé de sillonner le monde à la rencontre de ses lecteurs, et ses livres vendus donc par millions et millions et millions d'exemplaires, hein, quelque chose comme 8 millions, traduits en 27 langues. Tout ça, ça l'a précédé sur les 5 continents. Puis toutes ces rencontres qu'il a faites, surtout avec les jeunes, ça a pétri sa pensée puis son discours. Ça a permis à l'abbé Michel Coisse de développer cette intuition première qui l'a guidé toute sa vie. Qu'est-ce que c'est que cette intuition première? C'est le résumé de toute sa pensée. L'homme n'existe qu'en tant qu'être en relation. En relation d'abord à l'intérieur de lui-même. C'est sa dimension intérieure. Sa vie intérieure. Qu'est-ce qu'il trouve à l'intérieur? Il est l'habitacle de Dieu. Dieu habite en lui. Il est en relation aussi avec la nature, avec tous les autres hommes, avec sa dimension horizontale aussi, son engagement en politique, dans les œuvres sociales, dans tous les courants, les arts, même les loisirs, etc., l'aide aux autres, le bénévolat. Puis il est en relation avec la source de la vie, c'est sa dimension verticale. La dimension verticale, la source de la vie, c'est ce Dieu, qui est plus intime à lui-même que lui-même. Et quel que soit notre âge, notre situation personnelle, notre foi, ce livre, Construire l'homme nous concerne, c'est une invitation à nous connaître nous-mêmes, à prendre la mesure de notre destinée. Alors Michel Coisse a voulu terminer coûte que coûte son testament spirituel. Et Construire l'homme, qui est donc sorti à la fin de 97 au début de 98, aux éditions de l'Atelier, il écrit « Dieu ne nous enlève pas la vie, il nous la donne. Sans cesse, il nous la donne. Et quand elle meurt en nous et dans les autres parce que nous cessons de nous laisser aimer et d'aimer, c'est là qu'elle cesse la vie. Quand elle semble mourir en notre corps comme le grain enterré, eh bien Dieu la ressuscite par son Fils Jésus-Christ. Tu veux rencontrer Dieu, écrit-il aussi, tu veux rencontrer Dieu personnellement, le connaître pour lui parler comme à quelqu'un, t'unir à lui profondément et devenir son ami? Bien, nul ne peut être homme pleinement accompli et pleinement heureux tant qu'il ne parvient pas à cette union. Dès aujourd'hui, dans cet au-delà mystérieux mais réel dans lequel il entrera quand il aura franchi la frontière du temps. Quand il a franchi, lui, la frontière du temps, il y a un an aujourd'hui, mais c'est vers cet au-delà bien réel, vers cette union beaucoup plus profonde qu'est parti Michel Coisse. Oui, un jour d'hiver, juste avant Noël, en franchissant la frontière du temps. Oui, il était emporté par le cancer le 18 décembre 1997. Il avait 76 ans. C'est son évêque, l'évêque du Havre, Mgr Saudreau, qui a tenu à célébrer sa messe des funérailles le 23 décembre, l'avant-veille de Noël. Voici une belle prière encore de lui. Je voudrais monter très haut. Je voudrais monter très haut, Seigneur, au-dessus de ma ville, au-dessus du monde, au-dessus du temps. Je voudrais purifier mon regard et t'emprunter tes yeux. Je verrai alors l'univers, l'humanité, l'histoire, comme les voit le Père. Je verrai dans cette prodigieuse transformation de la matière, dans ce perpétuel bouillonnement de vie, ton grand corps qui naît sous le souffle de l'Esprit. Je verrai la belle, l'éternelle idée d'amour de ton Père qui se réalise progressivement. Tout récapitulé en toi, les choses du ciel et celles de la terre. Et je verrai qu'aujourd'hui, comme hier, les moindres détails y participent. Chaque homme à sa place, chaque groupement et chaque objet. Je verrai telle usine et tel cinéma, la discussion de la convention collective et la pose de la borne frontière. Je verrai le prix du pain qu'on affiche et la bande de jeunes qui va au bal ou à la discothèque. Le petit enfant qui naît et le vieillard qui meurt. Je verrai la plus petite parcelle de matière et la moindre palpitation de vie. L'amour et la haine, le péché et la grâce. Saisi, je comprendrai que devant moi se déroule la grande aventure d'amour, commencée à l'aurore du monde. L'histoire sainte, qui selon la promesse ne s'achèvera que dans la gloire, après la résurrection de la chair. Lorsque tu te présenteras devant le Père en disant « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin », je comprendrai que tout se tient, que tout n'est qu'un même mouvement, que toute l'humanité et de tout l'univers vers la Trinité, en toi et par toi, Seigneur. Oui, je comprendrai que rien n'est profane, des choses, des personnes, des événements, mais qu'au contraire, tout est sacré à l'origine par Dieu, et que tout doit être consacré par l'homme divinisé, et je comprendrai que ma vie, imperceptible respiration de ce grand corps total, est un trésor indispensable dans le projet du Père. Alors, tombant à genoux, j'admirerai, Seigneur, le mystère de ce monde, qui, malgré les innombrables et affreux ratés du péché, est une longue palpitation d'amour vers l'amour éternel. Oh, je voudrais montrer très haut, Seigneur, au-dessus de ma ville, au-dessus du monde, au-dessus du temps. Je voudrais purifier mon regard et t'emprunter tes yeux. Eh bien, l'abbé Michel Coast, mes empreintes maintenant, depuis un an, les yeux de Dieu, il nous regarde. Et on peut bien lui demander, je crois, de nous aider. Lui qui était si près de nous par tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a dit, tant par son sacerdoce que par son talent d'écriture. Cher Michel Coast, que nous avons tant aimé.